Vous écoutez France Culture.
Ça, je ne choisis pas ma technique. Je ne prémédite pas les techniques. Ça vient au dernier moment, quand je me mets au chevalet et puis... Tout ce que je peins, c'est mon portrait craché de toutes les façons.
Portrait craché, ça mérite interprétation ce soir en direct dans Le Rendez-vous. Sur France Culture, il sera question d'art brut, de psychanalyse, de collectionneur, de Marion, de James Edward Deeds et même de crachat. Avec Christian Berst qui expose pour la première fois en France James Edward Deeds, une figure historique de l'art brut. Manu Farine.
Et portrait d'un marchand activiste, hypothèse paradoxale, intégré dans l'histoire de l'art et dans le marché, un corpus qui tourne a priori le dos à l'un et à l'autre.
19h30, la session musicale de Mathieu Conquet, ce soir du jazz hip-hop avec Grand Piano Ramax.
Hip-hop et jazz, et plus encore, hein, avec Grand Piano Ramax, un trio piano, batterie et slam mené par Léo Tardini, ils joueront Call It Like You See It, nomme-le tel que tu le vois, en direct.
Nous recevrons aussi Gérard Wajman pour l'exposition Marion, la ménagerie humaine, artiste d'origine polonaise pour une peinture de corps troué, dégueulé, travaillé comme son portrait craché, comme il le disait en ouverture, Manu Farine.
Défense et illustration d'une œuvre qui n'a de cesse de dire qu'elle ne peut pas dire.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le journal de la culture avec Xavier Martinet qui présente un dossier sur l'archéologie en danger au Chili. Et puis on retrouvera les brèves de Benoît Lagan. Bonsoir Xavier Martinet.
Bonsoir Laurent.
Des archéologues chiliens protestent contre la course du Dakar et pensent à la faire interdire, selon eux, le parcours du rallye automobile met en danger de nombreux sites classés, mais ils ont été déboutés par la Cour suprême vendredi et leur voix a bien du mal à se faire entendre.
Oui, d'ailleurs, c'est peut-être significatif. La voix la plus entendue après ce jugement a été celle du ministre des Sports, qui démentait d'ailleurs les accusations des archéologues. Pourtant, selon ces derniers, le danger est réel, puisque depuis 6 éditions maintenant en Amérique du Sud, le Dakar est responsable, sans le eux, de la destruction de plus de 200 sites classés. Alors sont menacés notamment le nord-est du Chili, avec là les milliers de pétroglyphes ou géoglyphes du désert d'Atacama, ou encore le chemin des Incas, un vaste réseau routier Inca, et puis des sites utilisés, comme aux États-Unis, là, par des peuples indigènes. Je vous propose d'écouter la vice-présidente du Collège archéologique chilien, Paola González. Elle évoque une grave crise institutionnelle.
Non seulement la Cour suprême a refusé de reconnaître la nécessité de protection, mais elle a aussi écarté le problème de fond. Parce que ce sont des institutions officielles qui le disent, il n'y a pas seulement un risque, mais nous avons déjà 200 sites archéologiques détruits et ces destructions sont liées au passage du Dakar. La liste comprend des sites naturels, mais aussi des lieux d'habitation de l'époque préhispanique, des sections de chemins traditionnels et des géoglyphes. En plus, le Chili a signé la Convention 169 de l'OIT sur les peuples indigènes qui reconnaît notamment un droit d'usage des sites archéologiques qui leur sont liés. Et normalement, ils doivent donc être consultés. Alors, imaginez quand arrivent ensemble 700 voitures, camions, camionnettes dans des espaces où presque personne ne met jamais les pieds.
D'ailleurs, les conséquences du passage de la course inquiètent de plus en plus en Amérique du Sud.
Et oui, puisqu'il y a quelques jours seulement, on a vu des mobilisations semblables au Pérou, par exemple. En Bolivie, c'était même un chef indigène qui voulait poser des barbelés sur le tracé du Dakar. Et puis, il n'est pas faux de dire que le Dakar divise aussi l'institution politique, puisqu'au Chili, un rapport du Parlement, cette fois, estimait à 44% la proportion de sites archéologiques qui avaient été détruits par la dernière édition du Dakar. Et il faut dire que les archéologues ont aussi reçu tout récemment l'appui du Sénat chilien. Mais partout, c'est vrai que les gouvernements ont fait pression pour faciliter l'événement, attiré peut-être par les 45 millions de dollars de recettes. Et d'ailleurs, au Chili, c'est bien le Conseil des Monuments Nationaux, donc l'institution officielle, pourtant auteur de l'étude sur les fameux 200 sites détruits, qui a préparé le trajet de la course avec les organisateurs du rallye. C'est ce qu'affirmait en tout cas Grégory Murat, qui est chargé des relations avec les pays hôtes pour la société organisatrice Amaury Sport Organisation. Alors tendez l'oreille, il était dans le désert chilien.
Je soumets notre parcours. Ensuite, il nous demande de réaliser des mesures de protection qu'on réalise, hein, puisqu'il y a plus de 400 sites qui sont protégés sur l'ensemble du parcours du Dakar. Ça consiste en une signalisation, donc c'est un balisage qui est fait avec des piquets très hauts, de manière à ce que les concurrents puissent les repérer de loin, avec de la rubalise. Et d'ailleurs, cette protection est faite par des archéologues. On se remet en fin de compte complètement aux autorités de tutelle du Chili, charge à nous de leur donner les moyens de pouvoir réaliser l'intégralité de ces mesures.
Et j'ajoute que contacté tout à l'heure, le Conseil des Monuments Nationaux n'a pas souhaité répondre. Quant au Pérou aussi, il faut savoir que le gouvernement a obtenu une zone de 40 km à distance de ces sites de pétroglyphes les plus sensibles. C'était seulement, d'après ce que j'ai pu entendre de la part de Grégory Murak, quelques centaines ou quelques dizaines de mètres pour le Chili.
Merci Xavier Martini. On se retrouve demain pour la poursuite de ce journal de la culture. Tout de suite, les brèves, Benoît Laguenne.
Et pour ouvrir ces brèves, confirmation d'une nomination annoncée officieusement vendredi dernier, l'élection de Pierre Lescure comme futur président du Festival de Cannes a eu lieu officiellement. Aujourd'hui, élu à l'unanimité, l'ex-président de Canal+, Pierre Lescure, prendra donc ses fonctions cannoises le 1er juillet, après la prochaine édition du Festival de Cannes, qui sera dirigée pour la dernière fois en mai par Gilles Jacob.
Des précisions autour des victoires de la musique.
Oui, l'association organisatrice des récompenses musicales a annoncé aujourd'hui la liste des nommés aux 29e victoires de la musique, qui auront lieu le 14 février prochain. Et le grand favori de cette édition, et on s'en doutait un peu, Stromae, avec 6 nominations. Étienne Dao, 1995, mais aussi dans un autre genre, Christophe Maé et Maître Gims sont nommés deux fois. Du côté des musiciennes, on note la présence de Lily Wood and the Prick, Vanessa Paradis ou encore Zaz.
Et pendant ce temps-là, à la radio ?
Eh bien, c'est aujourd'hui que Médiamétrie livrait sa dernière étude des audiences radiophoniques. Et outre la bonne stabilité et même la progression de France Culture le week-end, le plus notable reste le chiffre global de l'écoute de la radio. Et si on compare les chiffres, eh bien, le nombre de personnes ayant écouté la radio a atteint 43,6 millions entre novembre et décembre 2013, soit 300 000 auditeurs de plus par rapport à l'an dernier. Un record historique. La radio est un média qui se porte donc très bien.
C'était la séquence Corporate. Tout de suite, la petite histoire du soir.
Eh bien, ce soir, Laurent, une petite fable sino-animalière ou comment un conte d'hiver, relaté par l'agence de presse Chine Nouvelle, repris par l'AFP ce matin, finit par faire le tour des pages insolites de tous les sites internet et journaux qui, comme moi, sont en manque d'inspiration. Je vous raconte. Tout commence dans un pays qui investit depuis plusieurs années dans la construction de stations de sport d'hiver et où, dit-on, les classes moyennes s'intéressent de plus en plus au ski. Mais voilà que les Chinois font connaître aujourd'hui au monde entier une compétition de ski d'un nouveau genre, une compétition qui s'amuse à rejouer ni plus ni moins que la célèbre fable de La Fontaine, le lièvre et la tortue.
Et quel lien y a-t-il entre la fable et une compétition de ski ? Eh bien, j'aimerais ne jamais avoir à poser une telle question.
J'adore vous les entendre poser ces questions-là.
Eh bien, parce que vous les écrivez, et en gras en plus.
Eh bien Laurent, tout simplement parce que dans un pays où Pékin est quand même candidate pour les JO d'hiver de 2022, les organisateurs de cette course sportive fabuleuse ont simplement ouvert leur compétition à des concurrents à
quoi
poil.
Qu'est-ce que vous avez prononcé, Laurent ? Vous avez prononcé un autre mot.
Des concurrents à poil, à plumes, donc chiens, chats, canards, coqs, lapins et tortues. Pour ce faire, alors, les sportifs avaient le droit de placer leurs animaux de compagnie sur des skis ou sur une luge, les guider à l'aide d'une laisse. Et comme nous le relate l'agence de presse chinoise, je les cite, « Comme le lapin a surtout montré son goût pour les sauts, sans suivre les instructions de son maître, il s'est fait dépasser par... »
La tortue.
Et voilà, moralité, si cette histoire ne casse pas trois pattes à un canard, elle a au moins le mérite d'avoir beaucoup diverti notre réalisateur, seul responsable de ce qui va suivre. Fier de lui, Nicolas Barger a passé tout son après-midi à réinventer cette fable chinoise. On pourrait l'intituler ainsi « La course du lapin, de la tortue et du berger ». Montage.
Dans la forêt de l'automne.
C'est bien parti, hein, sur le haut de cette piste.
Ouais, elle met beaucoup d'engagement.
Ce matin est arrivé.
Elle a une façon de tailler les courbes qui est exceptionnelle.
Une chose que personne n'aurait pu imaginer.
Petite faute là, juste avant le mur.
Des tortues à moteur.
C'est bizarre parce que Chantal Goya, je me souviens, dit toujours « ne pourrait imaginer ». Et quand j'étais déjà enfant, je me disais « ne pourrait t'imaginer ». C'est le seul commentaire que j'aurais sur cette question. Est-ce qu'il y en aura d'autres de la part de nos invités ? Gérard Wajsman ?
Non, ça, une remarque sur la liaison en français me réjouit l'âme, évidemment. Le mari d'une metteur en scène qui monte Corneille régulièrement ne peut être que satisfait.
Très bien. De votre côté, Christian Berce, est-ce qu'il y a quelque chose dans les nouvelles qui ont attiré votre attention et que vous voudriez commenter ?
Que j'aimerais commenter, pas nécessairement, parce que je ne suis pas certain que je sois plus qualifié que d'autres à le faire, mais non, c'est intéressant de voir que même quand on est spécialiste, c'est-à-dire un spécialiste, j'adore cette définition, je ne sais plus de qui elle est, peut-être que M. Weixmann s'en souvient, c'est quelqu'un qui sait tout de rien, et contraire d'un généraliste ou d'un encyclopédiste.
Qui lui
sait rien de tout.
Pas de commentaire sur l'épisode de la vie privée du président de la République de la part de Gérard Wajsman, psychanalyste.
Trop long pour votre émission.
Très bien, parfait, allez, on commence.
D'abord, je dois en premier lieu dire que les dessins d'enfants ne me plaisent pas. Pour bien des raisons. D'abord parce que je n'aime pas beaucoup les enfants. Et j'aime l'art fait par mes semblables et pas celui fait par les enfants. Mais je trouve que la position d'esprit dans laquelle un enfant dessine est bonne. Et ce que j'aimerais, c'est des œuvres d'art qui soient faites par un homme adulte et cependant qui conservent les qualités de liberté et d'invention que les enfants mettent en œuvre dans les leurs.
Plateau Dides avec vous, Christian Bertz, un plateau qu'on vient d'ouvrir sur la voie de Dubuffet. Christian Bertz, galeriste de la galerie du même nom à Paris. Particularité, vous vous consacrez exclusivement, et ce depuis l'ouverture de la galerie en 2005, à l'art brut. Sur quelle définition d'ailleurs de l'art brut vous avez ouvert la galerie à cette période ?
J'y ai été initié et j'ai commencé par m'intéresser au sujet en le prenant effectivement par le biais de celui qui a inventé le terme, à savoir Dubuffet lui-même. Et à une certaine distance maintenant, puisque ça fait un peu plus de 20 ans que je m'intéresse au sujet, j'ai été néanmoins amené à m'interroger sur les limites de l'exercice. Le grand mérite de Dubuffet a été de mettre un nom sur tout un pan de la production qui jusqu'ici était secret et... Ou du moins produit à l'écart des circuits culturels tels qu'on les connaît et qu'on les entend. Et donc évidemment aussi à l'abri du marché, d'où un paradoxe qui est celui de devenir le marchand de l'art qui n'était pas destiné au marché.
L'art brut entre dans votre vie d'abord en lisant Dubuffet, comme vous venez de lire, puis ensuite un catalogue consacré à Wolfli, icône de l'art brut. Qu'est-ce qui chez Wolfli vous fait basculer en fait de ce côté-là? Parce qu'avant, vous n'étiez pas du tout marchand ni galeriste.
Ah non, absolument pas. Non, j'étais assez éloigné des milieux de l'art, même si j'avais beaucoup de goût et beaucoup d'intérêt pour ce domaine. Mais Wolfli m'a fait basculer parce que j'ai été confronté, là pour le coup, à quelque chose qui me paraissait un ailleurs auquel ne m'avait pas tellement confronté l'art. Et quand j'ai appris par qui les œuvres que j'avais sous les yeux avaient été produites, ça a davantage encore aiguisé ma curiosité, puisque... Je passais en quelque sorte, et j'ai fini par le découvrir au fil du temps, parce que les œuvres d'art brut, bien entendu, on commence par s'intéresser aux œuvres, et quand on s'intéresse aux personnes qui sont celles qui les ont produites, on a l'impression de passer à une autre dimension, c'est-à-dire ça donne une épaisseur et une profondeur à la compréhension de l'œuvre qui est sans égale.
Manu Farine.
Pas toujours, ceci dit. Enfin, dans le cas de l'art brut peut-être, mais ce n'est pas toujours le cas. Dans Psychopathologie des collectionneurs, Gérard Wajsman, vous dites le collectionneur d'art brut soulève un profond problème. Lequel ?
Aucun souvenir de problème en question.
Vous ne vous souvenez pas de la particularité pour vous de la collection d'art brut ?
Pas tout à fait, en dehors de la mention qui était faite de faire qu'un objet qui n'est pas en soi un objet de commerce devienne un objet qu'on peut acheter. Non, je ne me souviens pas le point précis. Je vois plusieurs questions, mais je ne me souviens pas du point précis.
Christian Bertz, par exemple, justement, je crois savoir que les textes produits par Gérard Wajsman sur les collectionneurs de l'art brut, c'est quelque chose qui vous a intéressé, que vous citez régulièrement.
C'est quelque chose qui m'a intéressé et que j'ai été amené à citer effectivement dans des interventions que j'ai pu faire, y compris les conférences que j'ai pu donner. Notamment, ce qui m'a intéressé dans les idées qui étaient développées dans vos textes, c'était effectivement le fait qu'un collectionneur d'art brut, et d'ailleurs c'est une qualité que je finis par m'attribuer en toute immodestie un peu aussi, c'est quelqu'un qui finit par, en collectionnant, en marquant son intérêt pour ce type de production, de personnalités qui sont souvent mises à l'écart, qui sont dans une altérité sociale, mentale, certaine, en les collectionnant, il les replace au centre du jeu. Et donc, symboliquement, il leur redonne une fonction et un rôle. Et ça, c'est une des idées qui m'a beaucoup plu dans les textes de M. Wajsman, qui va peut-être développer et peut-être préciser ou affiner. Et l'autre idée qui m'avait beaucoup séduite, je ne sais plus exactement quels sont les termes qui sont employés, mais l'idée générale est que la collection pouvant être considérée comme une pathologie, disons-le, rencontrant des œuvres qui elles-mêmes sont le fruit aussi d'une déviance pathologique, il y avait là une rencontre fortuite et intéressante.
Gérard Wajsman, un commentaire sur cette coïncidence entre deux pathologies.
Oui, c'est l'une qui est tout à fait reconnue, valorisée, y compris culturellement. Et socialement, et puis l'autre, en effet, de gens qui sont un peu à l'écart, dont l'intérêt, d'ailleurs, précisément, tient au fait qu'ils sont à l'écart. Ma position est difficile, elle est compliquée parce qu'elle est divisée. C'est-à-dire, d'un côté, moi, je peux avoir affaire à des personnes. C'est d'abord des personnes que je rencontre et dont je peux mesurer à l'occasion qu'elles produisent des œuvres, qui ne sont pas toujours d'ailleurs des œuvres d'une qualité exceptionnelle, et à propos desquelles je me pose la question de savoir pourquoi elles le font. Et puis la position d'amateur d'art qui fait qu'on rencontre les œuvres sans rencontrer les personnes.
Bien sûr.
Et dans ce cas-là, la question devient de la même manière, enfin sous un autre versant, c'est pourquoi elles sont comme ça. Alors, je n'ai pas, moi, travaillé de très près sur des artistes reconnus comme d'art brut. J'ai travaillé sur quelqu'un dont je pense que je ne vois pas comment on peut ne pas la traiter comme une artiste art brutiste, si je veux dire, qui est Yayoi Kusama. Qui, à l'évidence, et qui a revendiqué une certaine folie, et dont il m'a semblé qu'il fallait rendre compte de ce pourquoi elle passait son temps à faire des points. J'ai été un peu étonné en lisant largement tout de même la littérature autour sur elle, qu'aucun historien d'art, parce qu'elle fait partie du monde de l'art depuis les années 60.
Avec ses performances.
Avec ses performances. Elle est dans le mainstream, comme on dit, de l'art, sans avoir jamais été une artiste outsider, justement. Est très étonné de voir qu'on n'a jamais posé la question de savoir pourquoi elle faisait ça. Et on dit que c'est un objet esthétique, etc. Elle raconte elle-même, elle dit, elle explicite très clairement pourquoi elle peint ça. Et d'une certaine manière, comment ça l'a fait vivre, comment elle a réussi à vivre jusque-là en faisant des points. Je trouve que c'est une question d'une importance cruciale, vitale pour le coup. Dont il faut absolument, qu'il faut absolument régler et qu'il faut, je crois, poser à chaque fois qu'on a affaire à des artistes d'art brut.
Oui. Vous êtes collectionneur vous-même, Gérard
Bachmann ? Mais pas du tout.
Alors que vous avez beaucoup écrit sur
les
collections.
J'ai beaucoup écrit, c'est ma fête aujourd'hui. Je vois que vous avez à côté de vous un livre que j'ai fait sur la
collection. Collection, essai.
Mais qui est tout de même un livre très, très bizarre, parce que, j'espère qu'il ne l'est pas qui dit des choses intéressantes, et ça a d'ailleurs été le point pour moi d'entrer dans un monde qui était celui des collectionneurs, mais c'est pour dire aussi que ce monde des collectionneurs, je ne le connaissais pas au moment où j'ai écrit ça. C'est-à-dire, je me suis interrogé sur la notion de collection, j'ai voulu un peu essayer de savoir si on pouvait traiter Freud lui-même, puisque c'était ma porte d'entrée, si la psychanalyse était ma porte d'entrée, si Freud était un collectionneur, ce que j'ai exclu, finalement. Je pensais que c'était un bibliophile, mais certainement pas un collectionneur. Lacan l'était sans doute un peu plus. Et j'ai parlé d'une notion qui était celle de la collection. Et après, par chance, qui est tout à fait soutenue par quelqu'un qui a un nom qui est Antoine de Galbert, puisque c'est à partir de ce livre, la lecture de ce livre, il m'a dit
le fondateur de la Maison Rouge à Paris.
Moi, je me suis reconnu dedans. Et j'ai dit, vous êtes le premier collectionneur que je rencontre, finalement. Et donc, tout notre lien, et qui est devenu d'amitié, mais pas seulement, est né à partir de ce paradoxe-là d'un livre sur les collections sans connaissance de ce que c'était que les collectionneurs.
Christian Berst, collectionneur, vous ? Quand on est galeriste, est-ce qu'on est aussi collectionneur ?
On ne devrait pas l'être. Ce serait salutaire de ne pas l'être, mais dans mon cas, malheureusement, je le suis.
D'art brut, j'imagine ?
Absolument.
À l'exception de tout le reste ?
Pas tout à fait à l'exception, non. Je suis capable de rester ouvert et attentif à ce qui se fait ailleurs et de temps à autre faire quelques excursions, mais c'est vrai que, après, c'est la raison qui m'impose de me concentrer sur l'objet de mon désir.
Alors justement, l'art brut tel que Dubuffet le définissait, c'était aussi une manière de tenir un discours sur l'autre art, c'est-à-dire l'art dit conventionnel, conforme, etc. Est-ce que vous aussi, d'une certaine façon, ça a pu modifier votre regard sur cet autre art, sur l'art conventionnel, conforme, Christian Berst ?
Au préalable, oui, parce qu'il est assez tentant, Dubuffet est non seulement très habile, très intelligent, mais il a une plume remarquable. Donc pour quelqu'un qui aime les choses bien écrites, peut difficilement résister à cette séduction-là. Mais après, il s'agit aussi de pouvoir s'émanciper de la pensée de Dubuffet, de revendiquer son droit d'inventaire. Je pense qu'on a une distance de temps maintenant qui est suffisante. Plus d'un demi-siècle, depuis les premiers écrits, les premiers manifestes de Dubuffet, qui nous permettent d'entrevoir les limites de l'exercice, parce que simplement raisonner en termes d'opposition ou frontale qui tendrait, et ne pas voir quels sont, quel est le degré de perméabilité ou de chevauchement parfois des territoires, de zones grises, et qui montre que parfois les choses sont un peu plus imprécises. D'ailleurs, on le voit quand chaque fois que quelqu'un commet le douloureux exercice de vouloir limiter ou définir l'art brut, on s'aperçoit bien que ça n'est pas si simple, à tel point que aujourd'hui, moi personnellement, je me bats quasiment quotidiennement pour éviter la réduction d'art brut égale art des fous, qui est une réduction à laquelle nous avons été confrontés, puisque effectivement, parmi les populations créatrices dont Dubuffet avait rassemblé des œuvres, beaucoup d'entre elles étaient internées dans des asiles psychiatriques.
Vous exposez aujourd'hui pour la première fois en France un grand ensemble de James Edward Deeds. Alors pour le situer rapidement, c'est un artiste américain né en 1908, enfermé en asile psychiatrique à l'âge de 17 ans pour des violences à l'encontre de son frère. Il sera soigné par des électrochocs. Et ce n'est qu'il y a 40 ans qu'on a retrouvé ses dessins dans les poubelles d'un hôpital psychiatrique. Quelle serait la particularité de son travail, sa signature en fait, qui passe essentiellement par des portraits, Christian Berst?
Alors, sa signature, là, pour le coup, c'est quelque chose qui nous happe le regard, littéralement. Elle est dans les regards. Et les regards qui viennent en contrepoint, donc il faut imaginer des regards totalement qui sont dans la fixité, dans la stupeur, même une forme d'effroi, et qui sont en contrepoint parfait avec la délicatesse et la méticulosité, le raffinement du dessin, et oui, même une forme de préciosité, l'anachronisme aussi avec lesquels il habille donc la dimension un peu théâtrale. Parfois, il bordure ses dessins, etc. Et ce sont des dessins qui sont recto verso. Donc effectivement, dans la majeure partie des cas, comme ça a été réalisé sur des feuilles administratives de tenue de compte de l'hôpital psychiatrique, une bonne âme certainement lui faisait passer pour qu'il
puisse dessiner,
qu'il ait un support. Souvent, il se servait de la partie vierge de la page pour le portrait, et la partie imprimée servait à des divagations qui réfère souvent au voyage ou aux animaux. Et on perçoit, sans pouvoir le dire, parce qu'on n'a pas beaucoup d'éléments pour le faire, qu'il y a une bonne part d'autobiographie, mais en même temps beaucoup de projection de la part de Deeds, parce que on sait que cette expression de stupeur, d'effroi, d'œil exorbité pouvait naître de des traitements à outrance aux électrochocs, ce qui était son cas, et le fait qu'il représente des personnages qu'il a pu croiser certainement, il y a le Judge Smith, il y a des demoiselles qui ont peut-être jalonné son parcours, qui sont peut-être des infirmières, mais qui du coup se transforment en princesses, enfin, mais toutes ont cette particularité. Tous ont ce regard.
Vous connaissiez cet artiste ?
Oui. Oui, enfin, connaître. Oui, je connais.
Vous connaissiez l'existence, déjà les travaux.
Je connaissais un peu l'existence. Je trouve que ce que vous en dites est frappant à beaucoup d'égards. Et en tous les cas, c'est quelque chose qui rencontre. Si je m'intéressais de près, ce que j'ai toujours rêvé de faire d'ailleurs, sur un artiste d'art brut, c'est vrai que c'est autour de cette question du regard que je ferais tenir les choses. Comme s'il y avait, parce que vous décrivez là les visages, enfin celui qui figure sur la couverture de votre catalogue, mais c'est comme s'il y avait une manière pour l'artiste d'avoir projeté, c'est-à-dire aussi mettre à l'écart, oui. Mettre à distance un regard qui est sur lui. Et il y a souvent, aucune généralité à faire à cet égard, parce qu'aucun artiste ne se ressemble de ce point de vue, mais j'ai été en tous les cas à plusieurs reprises frappé par ce caractère-là. Ce sont des œuvres qui regardent intensément, et dans lesquelles le regard n'est pas une chose dissimulée, cachée, mais au contraire absolument frappante, visible, et aussi bien malaisante d'ailleurs.
Oui. Manu Farine.
Alors justement, lui, c'est c'est presque un classique, hein, maintenant de, enfin, en tout cas une figure historique de l'art brut. Et c'est vrai qu'en 10 ans, on a vu l'art brut s'exposer, trouver une place sur le marché de l'art. On l'a vu s'institutionnaliser. On l'a vu à la Biennale de Venise, hein, en 2013, dans la grande exposition, avec des classiques de l'art brut qui étaient exposés, pour le coup, là, sans distinction avec des œuvres dites conventionnelles. Et ce qui frappe, c'est que pour beaucoup, on a le sentiment que l'art brut est considéré, au pire, comme un mouvement, voire comme un style, même comme un style historicisé, terminé quasiment, bien plus que comme un rapport au monde et à l'art. Est-ce que c'est quelque chose qui était déjà en cours au moment où vous avez ouvert votre galerie en 2005? Vous, quel regard vous portez sur cette tendance-là? Parce qu'on pourrait très bien imaginer l'art brut, je ne sais pas, sur Internet, sur YouTube, en photographie, ce qu'on voit assez peu.
Alors, ce qu'on voit chez vous d'ailleurs, vous avez déjà exposé des photographies?
J'ai exposé des photographies, j'ai même eu la chance d'exposer les œuvres d'un traité qu'un schizophrène avait réalisé sur son petit portable. Et comme il ne disposait que d'un programme de traitement de texte, il avait poussé ce traitement de texte dans ses derniers retranchements au point d'utiliser toutes les fonctions graphiques possibles et imaginables dont la plupart des gens ne se serviront jamais. Et il avait produit une œuvre absolument, tout un traité encyclopédique qui s'appelle, ce monsieur s'appelle Abdelmajid Mehdi, et ce texte s'appelle Dieu, l'homme, la science et les singes. Et c'est un traité absolument formidable qui traite, qui aborde aussi bien les questions de spiritualité, de métaphysique, de religion, les rapports à l'âme, à la production, les relations sociales, etc., etc. Donc on trouve y compris, je ne vois pas pourquoi.
Ça n'intéresse pas le marché, peut-être.
Ça commence à l'intéresser.
Non, je veux dire ces pratiques contemporaines là.
Alors, ces pratiques contemporaines, le problème de l'art brut, qui est en même temps ce qui fait une de ses qualités et un des intérêts, c'est qu'il n'est caché. Et donc, la révélation de ce type d'œuvre, elle est souvent totalement fortuite. Elle n'est jamais le fait de l'auteur. À partir du moment où l'auteur vient me voir, un auteur de n'importe quelle œuvre vient me voir, je sais que je suis en présence de quelque chose qui probablement ne contient qu'en faible proportion la notion d'art brut. Parce que, par définition, cette œuvre n'est pas produite, enfin, du moins le destinataire de cette œuvre n'est pas inscrit de fait dans la production de l'œuvre.
C'est un art qui ne serait pas adressé au départ.
D'une certaine manière.
Auto-réflexif.
D'une certaine manière, voilà.
Comment vous comprenez justement cet intérêt actuel pour l'art brut, hein? Manu venait de parler de la Biennale de Venise, mais on a vu aussi à la FIAC récemment, Beaubourg vient d'acheter sa première œuvre d'art brut. Comment vous comprenez cet intérêt du marché aujourd'hui et même des institutions pour l'art brut? Chose qui n'est pas apparue depuis longtemps.
Je pense qu'on profite du même recul que j'évoquais tout à l'heure par rapport à Dubuffet, à qui on doit beaucoup, mais le milieu de l'art est en train de se rendre compte qu'il a peut-être commis une petite erreur en se retranchant un peu paresseusement derrière la posture, effectivement, un tantinet dogmatique de Dubuffet qui tendait à opposer des champs qui ne se parlaient pas ou peu. Et en fait, le monde de l'art est en train de passer outre cette dichotomie et sont en train de vouloir comprendre de quelle manière, en fait, cet art-là peut nous conduire à une autre compréhension de l'art dans sa globalité et peut-être revenir, effectivement, à s'interroger sur les questions. J'ai eu l'occasion d'écrire récemment, à partir des idées de Walter Benjamin, que vous devez connaître, et la question du lointain et de l'aura, qui est quelque chose qui n'aurait jamais dû cesser d'être présent dans l'art.
Gérard Wajsman, comment vous comprenez cet intérêt aujourd'hui du marché, de l'institution pour l'art?
Bien moins placé, que Christian Berthe pour y répondre, mais il y a aussi un élément qui, semble-t-il, rentre en ligne de compte, c'est le fait que dans l'art contemporain, chez les artistes eux-mêmes, l'art brut a pénétré. Et donc, au fond, moi, j'ai découvert, au fond, au travers de, justement, des collectionneurs, que pour les collectionneurs eux-mêmes, l'écart, la frontière était de plus en plus réduite, voire absolument nulle. Et qu'on collectionnait, que les deux grands collectionneurs collectionnent exactement comme des œuvres d'art reconnues comme art officiel, si je puis dire, des œuvres d'art brut pur. Et donc, entre les artistes eux-mêmes qui ont laissé pénétrer l'art brut et qui ont fait des efforts, à certains égards, pour devenir eux-mêmes des artistes bruts, et les collectionneurs qui les collectionnent, il me semblait qu'à un moment, les institutions qui sont toujours en retard sur les collectionneurs allaient s'ouvrir un tout petit peu à ça.
Mais est-ce que cet intérêt ne ferait pas non plus symptôme, parce que c'est assez étrange, c'est au moment où l'on redécouvre, en fin de compte, l'art brut, que l'on redécouvre aussi, par exemple, dans l'art contemporain, des pratiques dites artisanales. Je pense à l'exposition sur les tapis actuellement au Centre Pompidou, je pense aux expositions d'art contemporain autour de la céramique, c'est-à-dire dans des pratiques artisanales. Est-ce qu'il y aurait là quelque chose qui ferait symptôme dans le domaine de l'art contemporain aujourd'hui, Christian Berst ?
Je pense qu'effectivement, tout ça est nécessairement interconnecté parce que je crois qu'on est en train d'essayer, on est dans une phase d'expérimentation et il y a pas mal de théories qui sont en train d'éclater et je pense qu'il y a d'autres liens qui sont en train de se tisser. On est la généalogie de la pensée, si on place les choses là pour le coup dans une perspective historique encore plus vaste, on sent bien que cette idée qui est celle qui a conduit Dubuffet à forger ce terme et à collectionner les œuvres qu'il rassemblait sous cette bannière d'art brut, et on est dans une pensée aristotélicienne typique, puisque c'est le premier à avoir posé effectivement qu'il y avait un cousinage entre génie et folie. Et donc là, il s'opérait quelque chose et on s'aperçoit à travers la pratique de tous les artistes, et Gérard Weitzman a eu raison de le souligner, la plupart du temps, les premiers collectionneurs d'art brut étaient des artistes eux-mêmes, quand ce n'était pas quelques psychiatres éclairés, mais beaucoup d'artistes, et qui sentaient bien là qu'il y avait quelque chose, une enfance de l'art en quelque sorte. C'était, là je fais un peu, ça fait écho à ce qu'on entendait tout à l'heure de Dubuffet, qui n'aimait pas beaucoup les enfants, mais qui néanmoins soulignait qu'il n'était pas le seul. Klee, Kandinsky, Max Ernst et beaucoup d'autres, c'était passionné d'ailleurs. Tout le monde connaît cette anecdote de Paul Klee qui, dans ses toutes premières expositions, mêlait, pas simplement par malice, mais aussi parce qu'il avait envie de dire quelque chose à travers ça, mêlait parmi ses propres œuvres, mettait des œuvres de son fils qui avait 11 ans.
Le rendez-vous, 10h, la session.
Christian Berst, Gérard Weitzman, on vous retrouve dans quelques instants. Tout de suite, c'est l'actualité musicale, Mathieu Conquet.
Et ce soir avec
jazz et autre chose.
Exactement, avec Grand Piano Ramax, un projet mené par Léo Tardin, c'est le pianiste suisse Genevois qui est derrière vous, Laurent, ici au clavier Rhodes et piano, récompensé au concours international du Festival de Jazz de Montreux, c'était il y a presque 15 ans maintenant. Il a joué depuis aux côtés de Roy Ayers, d'Eric Truffat, de Toots Thielemans. Il a mené une carrière à New York puis à Berlin et vient de paraître le 4e album de son projet Grand Piano Ramax, un trio à 180 degrés hein, qui va de l'électro au hip-hop en passant par le jazz et le spoken words. Et il y a même un côté psychédélique par moment sur ce disque. À la batterie, c'est Dominique Burkhalter. Signe particulier, lui ne joue que sur des cymbales percées ou trouées. Vous allez voir le son particulier que ça produit. Au micro, le chanteur et auteur de Brooklyn que vous avez peut-être entendu auprès des Cocorosi, c'est Black Cracker. Call it like you see it, nomme-le tel que tu le vois, en direct sur France Culture. Grand Piano Ramax et la session est filmée.
While we blood under the sun, bound by the night, we made stride but still stepping. So what you repping? Hustle, struggle, knuckles stay clenched like stars explode when the truth is told behind the smiles of clowns in the face of old. Cause the kids gon' laugh and the time it passed and the bottles of bats washed down our throats as the votes is tallied and the stars is rallied. Constellations we form or it goes so much more than skin. So why you in the vein? I'm just saying you're playing like solar eclipse. So start acting like a you miracle. We spiritual, so pour me another round. All around laws and sound of stars drop to the ground. Yeah, call it how you see it. See it how you breathe it. Breathe it like you need it. You need it like I need you. Call it how you see it. See it how you breathe it. Breathe it like you need it, need it like I need you. Yeah. Hey,
it how you see it. See it how you breathe it. Breathe it like you need it. Need it like I need you. Yeah, you know I need you. You, 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 yeah. Call it how you see it. See it how you breathe it. Breathe it like you need it. Need it like I need you. Yeah, you know I need you. You. Yeah, you know how we do, 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 do. Yeah, we prism skin. We see through, 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 through. Yeah, you know how we do, 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 do. Yeah, you know how we do, yeah. So you could just lay down. We can leave our troubles in the dust. We could take clouds and make heaven if we just stay true to the beauty in our smiles. It's just me, you, so let's be free. Falling angel in the wind. You're some kind of wonderful encased in skin. Prism like, fractured like stars in the midnight. We see through, you know how we do. Call it how you see it. See it how you breathe it. Breathe it like you need it. Need it like I need you. Call it how you see it. See it how you breathe it. Breathe it like you need it like I need you, yo, yo, yeah, hey, call it how you see it, how you breathe it, breathe it like you need it like I need you, yeah, you know I need you, yo, yo, yeah, hey, call it how you see it how you breathe it like you need it like I need you, yeah, you know I need you, yo, yo.
C'est du brut aussi. Grand Piano Ramax en direct sur France Culture. Ils seront en concert demain soir au Sunset à Paris. Jeudi, ils seront au Festival des Hivernales de Jazz à Vannes. Samedi 18 au 1988 Live Club, c'est à Rennes. Et puis de retour en France le 25 mars au Festival de Vaux Jazz, à Vaux-en-Velin. Donc ce sera le 25 mars. Grand Piano Ramax, leur disque Till There's Nothing Left est paru sous le label Oblique Sound. Et je précise que la session était filmée.
Et donc elle est disponible
sur notre site dès ce soir. Et sur celle de France Culture et sur Dailymotion.
Personne ne veut voir la réalité. Il y a beaucoup de gens qui me disent parfois je ne pourrais pas dormir avec un tableau à Marion. Tout simplement parce qu'il est réel, très réel. On va être tranquille plutôt.
Plateau Marion qu'on ouvre sur sa voix avec vous, Gérard Wajmann, psychanalyste, écrivain, essayiste, puisque vous signez un texte dans le catalogue de l'exposition au musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris. Marion est né en Pologne en 1927, il est laissé pour mort en 1942 avant d'être emmené à Auschwitz. Et à la fin de la guerre, il sera le seul survivant parmi les siens. Dans son parcours, il y aura la Palestine, Paris dans les années 50, les Beaux-Arts, une peinture à l'époque plutôt abstraite, puis les États-Unis. Et c'est là qu'il va développer une peinture figurative qui consiste en une sorte de défilé d'animaux, de personnages grotesques, grimaçants. Il va disparaître à New York brutalement. En 77, il aura 50 ans. Un commentaire sur la prise de parole qu'on a entendue en ouverture. Personne ne veut dormir avec une peinture de Marion. Trop réel.
Je regrette de ne pas avoir connu cette phrase. Je regrette et je suis content de voir qu'il m'approuve de là où il est.
Ah, c'est exactement ce que vous dites.
Ah, c'est exactement ce que. Oui, c'est. Je n'ai pas utilisé une telle formule. Oui, c'est vrai que c'est de l'art réel. C'est tout à fait juste. Enfin, c'est exactement ça que j'aurais pu en dire. Et exactement dans le sens où lui l'évoque, c'est-à-dire le caractère, le battement qu'il évoque entre un art, son art à lui, trop réel, et un art qui apaiserait. C'est-à-dire, il n'est pas du côté de l'apaisement, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Il n'est pas du côté d'un art, d'une peinture en général qui viendrait, que j'avais nommé celui de la consolation, qui était un peu la conception d'ailleurs que j'attribuais à Freud. L'art était fait pour consoler, Marian n'est pas là pour consoler, il est vraiment là pour... pas pour provoquer, pas pour... il n'a pas d'ambition à cet égard. Il a simplement le fait de mettre en évidence quelque chose de lui-même qui a un caractère fondamentalement dérangeant. Oui.
Manu Farine.
Vous commencez votre texte, Gérard Wajsman, par ce qui fait le cœur de l'exposition au musée d'art et d'histoire du journalisme. Pas du tout, du judaïsme.
C'est la journée des lapsus. Après cocu, journalisme.
Mais non, ça, c'est moi qui produis ça.
Mais c'est ça, exactement ça.
Vous ne
devrez jamais parler devant un psychanalyste.
Mais non.
On va faire comme Marion, se taire.
Non, mais attendez, faites de la radio.
Bien sûr.
Je suis trop content.
Bref, 478 dessins à l'encre de Chine, donc 9 carnets spiralés exécutés donc par Marian sur une année, hein, précisément entre 1971 et 1972. Particularité de ces dessins, ils ont été exécutés à la demande de son thérapeute à ce moment-là. Sur le principe, peut-être un commentaire du psychanalyste,
hein, bah, oui, on pourra en brancher plusieurs, mais il y a le fait que, d'abord, moi, je trouve admirable finalement que on peut imaginer que les conditions dans lesquelles tout ça est né, qu'on ne connaît pas dans le détail, il faut dire, soit aussi un empêchement dans lequel le psychanalyste s'est trouvé face à quelqu'un qui devait avoir une réticence à la parole, mais qui est tout de même venu le voir pour appeler une aide. Donc, appeler une aide dont on voit combien elle est puissante au travers des dessins qu'il a produits sur le help qui ne cesse de sonner dans de nombreux dessins.
Il écrit dans les dessins.
Qu'il y a un caractère, il y a des bulles parfois dans les dessins. Il écrit. Et il y a un appel. Il y a manifestement un appel. Il a appelé manifestement aussi ce thérapeute à une aide qui n'a peut-être pas été à même de lui apporter en parole, et donc il lui a suggéré de lui amener pour le coup des dessins, de faire des dessins, de les lui amener. On ne sait pas très bien ce qu'il en a fait, les commentaires qu'il a pu produire là-dessus, mais moi il ne m'est jamais arrivé de faire ça, même si je crois que dans la psychanalyse, demander à des enfants de dessiner, ça va de soi. Demander à un adulte comme lui en particulier de dessiner, c'était pas immédiat. Mais on a une autre expérience dans l'histoire. C'est-à-dire que je savais un peu, j'ai du coup été regarder à nouveau l'histoire, une expérience parallèle, comparable à certains égards, même si les deux artistes n'ont rien de commun à beaucoup d'autres aspects, qui était Pollock. Pollock a fait des dessins pour son analyse. D'abord, il a été en analyse, qui n'est pas non plus le plus fréquent. Il a connu plusieurs analystes. On lui a demandé des dessins. Lui-même était dans un état... Enfin, il avait été diagnostiqué, soit un truc... Je ne sais pas très bien ce que ça représente dans la clinique américaine, mais psychose alcoolique. Et donc, il a été voir des thérapeutes, il a fait des dessins. Et c'est au moment du grand Pollock, c'est-à-dire au moment où il fait les drippings et tout ça. Donc, on a une histoire, on pourrait faire une histoire, il y a peut-être d'autres exemples que je ne connais pas, je connaissais celui-là, le rôle de Lachaud. La question qui me venait, je crois, doit en faire part dans ce texte que j'ai un peu oublié.
On va vous le rappeler.
Oui, mais qui est le fait de savoir, au fond, est-ce que ça a produit quelque chose dans cette analyse-là ? Je ne parle pas en psychanalyste, là. Mais est-ce que le fait d'avoir dessiné a amené à une sorte de guérison, etc. ? Je ne le crois pas. Je ne crois pas tellement que ça a eu ce rôle. En revanche, ce que je crois, c'est le fait de faire les dessins en soi a eu de l'effet pour Marian. Ça ne l'a pas guéri. La preuve, il est mort d'ailleurs pas si tard que ça, après. Il a simplement réussi à faire quelque chose là qu'il n'avait pas fait auparavant. C'est-à-dire, moi, la commissaire de l'exposition, Nathalie Azan-Brunet, qu'il faut grandement honorer dans cette histoire, de nous avoir fait découvrir, parce que je fais aussi partie de ceux qui ne connaissaient pas Marian. Faut le dire. Quand on voit l'exposition que vous avez vue, si je comprends bien, on est saisi. Alors là, on revient au premier point. C'est-à-dire, on n'est pas du tout dans l'apaisement quand on voit cette œuvre, mais on est aussi frappé de l'importance de l'œuvre, alors qui manifestement a été comparée à certains moments on a associé à Bacon, à Philip Guston, enfin des artistes de ce genre, mais qui a une singularité très grande et qui fait aussi qu'on ne connaissait rien de ce type jusqu'à aujourd'hui. C'est tout de même, moi je m'en suis tout à fait étonné.
Sauf Combass qui s'en réclame
oui,
beaucoup.
C'est absolument. Mais oui, mais là encore.
Ce n'est pas étonnant d'ailleurs quand on voit les
dessins. Non, c'est vrai que ce n'est pas étonnant. Et
sur des corps troués,
il lui rend un hommage formidable, je trouve, dans la petite la dépendance dans laquelle il a mis quelques œuvres. Et ce qui prouve d'ailleurs aussi que là, ce sont des artistes qui l'ont vu et qui ont pu voir quelque chose que d'autres n'avaient pas vu, en tous les cas, pas l'histoire de l'art.
Christian Merz, vous connaissiez ?
Je connaissais parce que j'ai des amis qui ont la chance d'en posséder. Donc déjà, ça m'a permis de les... Et oui, encore des collectionneurs. Encore des collectionneurs. Et donc, oui, mais c'est intéressant d'ailleurs parce que de l'entendre et de voir qu'il employait le qualificatif de tranquille, parce que c'est précisément une œuvre intranquille au possible. Tout à fait intranquille.
Eh ben on va le réécouter parce que ces carnets donc sont adressés à son analyse. Ce sont des dessins à l'encre de Chine, des personnages empêchés, souvent aveugles, mutilés, du sang, son père, sa mère, des cris, des appels au secours, des uniformes nazis, alors même que Marion n'avait jamais pu parler de son histoire. Et l'idée d'en parler, disait sa femme, aurait été comme d'aller cracher sur la tombe de ses parents. Je voudrais revenir sur ce terme cracher. On écoute Marion.
J'en veux à moi-même. Tout simplement parce que j'en veux à tout le monde. J'accuse la société. Et c'est comme ça que je m'exprime, en accusant la société. C'est le seul contact que j'ai, en espérant qu'elle m'écoutera. C'est très autobiographique. C'est le point de départ. Tout ce que je peins, c'est mon portrait craché de toutes les façons.
Commentaire sur ce thème craché qui revient dans la bouche de sa femme et qui revient dans la sienne.
Oui, oui.
Qu'est-ce que ça veut dire de sa peinture ?
Plusieurs choses. Il y a deux choses. Il y a le lien qu'il fait entre autobiographie et portrait craché. Je crois que je dis un mot, je me souviens tout de même de ça un peu dans ce que j'avais vu, ça me revient. Je ne perds pas entièrement la mémoire. Le fait que, pour lui, l'autobiographie, c'est un autoportrait. Et c'est vrai que ça m'a tout à fait frappé. Que j'étais happé par la série des dessins, il faut bien dire, quand je les ai découverts, qu'il y avait là une demande faite par un analyste de dire quelque chose qui n'arrivait manifestement pas à formuler en parole, mais les dessins eux-mêmes ne prennent pas la place d'une parole, puisque, au fond, la parole qu'on peut avoir dans une analyse tient de... grosso modo, tiens, d'un récit qu'on pourrait faire, d'une histoire qu'on pourrait raconter et qui fait passer, comme disait Lacan, d'un roman à un haïku, quoi. Mais on raconte quelque chose. Il y a une dimension de récit, et y compris de fiction, d'ailleurs, de ce point de vue-là. Et quand on regarde les dessins, en effet, et que vous, comme vous le dites, ils montrent là des choses qu'ils n'avaient jamais montrées, et il y a vraiment un effet de monstration véritable, qui tiennent à son histoire, mais c'est une histoire qu'il ne raconte pas. C'est-à-dire, elle est morcelée dans chaque dessin, dans chaque corps qui est figuré, et qui est un rappel de son corps, de tous les corps qu'il a rencontrés, qui sont évidemment une manière d'énoncer la tragédie des corps au XXe siècle, dont lui-même était le premier...
Le seul survivant, en tout cas dans sa famille.
Oui, bien sûr. Et atteint dans son corps lui-même, puisque, je crois que vous l'aviez dit tout à l'heure, il a été amputé à la suite.
Parce qu'on lui a tiré dessus.
Il a été criblé de balles, voilà. Et on a dû l'amputer.
À deux reprises.
Une jambe, ouais.
Dernière question, Manu Farine.
Alors, votre texte est titré « Help ». C'est ce qu'on lit donc, dans les bulles de dessin de Marian. En quoi est-ce que ce mot aurait pu être votre hypothèse de travail, puisque vous commencez par lui, Gérard Majman.
Il aurait pu, parce que il y a le fait simplement qu'il a été voir quelqu'un, c'est-à-dire ce qu'on appelle le transfert. C'est-à-dire il va voir quelqu'un, il demande une aide. Je pense que finalement, le psychanalyste lui a apporté une aide qui n'est pas de l'ordre de la psychanalyse, justement, mais qui est le fait de lui avoir permis de réaliser quelque chose qu'il n'avait pas manifestement pu réaliser, qui sont cette replongée dans une histoire qu'il ne raconte pas, mais il plonge dans l'histoire dit l'histoire des corps, c'est vraiment une histoire de corps, de ses parents en particulier. Ce que vous disiez sur le fait que sa femme aurait dit en effet que ça aurait été craché sur les tombes, ça, il le crache dans la peinture. C'est-à-dire, il ne raconte rien d'eux, parce qu'il n'y a rien à raconter. La seule chose qu'il a à raconter, c'est leur disparition. Et au fond, la seule manière qu'il a de le faire, c'est de se projeter lui-même. Et il le dit à un moment, je souligne la chose, en disant qu'il est présent dans ses œuvres sous la forme, une forme qui est en effet crachée, y compris sous la forme de la peinture elle-même, de la matière. Moi, j'ai été saisi par ça. Il y a très peu d'artistes qui peuvent dire une chose comme ça. J'évoque à un moment toutes les possibilités qu'il y a de se représenter soi-même dans la peinture, de se raconter, de se figurer, de donner son image, de tout ça. Lui, il ne dit pas ça. Il dit « je suis la peinture, je suis la couleur elle-même ». Et là, on est bien obligé de ramener la chose à l'essence de la couleur. Quand Lacan dit que si un arbre peignait, il lâcherait ses feuilles, si un oiseau peignait, il perdrait ses plumes. Et pour ce que sont les peintres, c'est-à-dire des hommes, la seule chose avec quoi on peut peindre, c'est avec la merde. Et au fond, ça, la merde, elle est immensément présente dans tous les dessins.
Une rencontre fortuite et intéressante.
La frontière était de plus en plus réduite.
On est dans une phase d'expérimentation.
On rencontre les œuvres sans rencontrer les personnes.
On perçoit sans pouvoir le dire.
Trop long pour votre émission.
Merci à nos invités. Christian Berthe, James Edward Deeds de Electric Pencil, c'est jusqu'à samedi dans votre galerie à Paris. Gérard Wajman, Marion, la ménagerie humaine, c'est jusqu'au 6 février au musée d'art et d'histoire du judaïsme, toujours à Paris. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain ? J'adore la littéralité. Demain, une émission Cause Commune avec Le Figaro. Notre invité sera Éric Neuhoff et la réalisatrice Aurélia Barbet.
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Mathieu Conquet, Manu Farine, Benoît Lagan, Xavier Martinet, Aïssa Touendoï et Elodie Royer. À la prise de son, Jean-Guilain Meige et Élise Le. À la réalisation, Nicolas Berger.